journal. Bonjour Marc Fauvel.
Bonjour à tous. À la une ce matin et maintenant, l'assurance chômage. Emmanuel Macron lance l'acte 2 du quinquennat avec une nouveauté en vue. Les salariés qui démissionnent auront le droit à l'avenir, eux aussi, aux indemnités chômage. Ils en appellent à l'État pour que les promesses soient tenues. Les salariés de General Electric de Grenoble, reçus ce matin à Bercy, 300 emplois supprimés alors que le groupe avait promis d'embaucher. Pourquoi le Levothyrox a-t-il provoqué autant d'effets secondaires? L'agence du médicament livre enfin ses premières conclusions. La nouvelle formule n'est pas toxique, mais elle peut créer des problèmes de dosage. À 8h20, une figure de la gauche européenne. Il raconte l'Europe, son fonctionnement vu de l'intérieur. Il est votre invité ce matin, Nicolas.
À 8h20, Yanis Varoufakis, l'ancien ministre grec. Il publie « Conversations entre adultes dans les coulisses très secrètes de l'Europe » aux éditions « Les liens qui libèrent ». Il répond à vos questions à 8h40, 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, des trous de mémoire au procès d'Abdelkader Meral. Un des témoins clés n'est plus très sûr de ce qu'il a vu à l'époque. Aux États-Unis, l'affaire Weinstein qui tourne au règlement de compte à Hollywood et dans la classe politique. Et puis le sort des civils à Raqqa en Syrie. Enfin, à la fin de ce journal, une nouvelle chaîne de télé proche des Insoumis et un détour à l'Opéra Bastille à Paris pour le Don Carlos de Verdi.
France Inter.
Pas question de lever le pied, à peine adoptées les ordonnances sur la loi travail et alors que la rue gronde encore, c'est un autre gros chantier qu'Emmanuel Macron lance aujourd'hui. Le chef de l'État reçoit l'ensemble des partenaires sociaux à l'Élysée pour les sonder sur sa réforme de l'assurance chômage et de la formation, censée remettre un coup de balancier à gauche en protégeant mieux les salariés. La mesure phare, la plus coûteuse également, c'est que les salariés qui démissionnent auront désormais le droit au chômage. Laurent Kramer, reste un petit détail à régler, il faut trouver quelques milliards d'euros pour le financer.
Avec cette réforme, Emmanuel Macron souhaite fluidifier le marché du travail. Ouvrir l'assurance chômage à l'ensemble des salariés qui souhaiteraient démissionner donnerait un nouveau filet de sécurité pour créer son activité ou changer de métier, estime Christophe Robledo, entrepreneur en région parisienne.
C'est une bonne idée parce qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui n'osent pas démissionner de peur de se lancer comme ça dans l'inconnu et qui vont peut-être pouvoir le faire parce que justement ils savent qu'ils vont être partiellement indemnisés. Je ne pense pas qu'aujourd'hui les gens démissionnent simplement pour partir à la plage et partir en vacances. Les gens démissionnent pour essayer de faire autre chose, trouver un autre boulot, pas simplement entre midi et deux ou en posant à RTT pour faire des entretiens d'embauche.
Mais la réforme coûterait entre 3 et 5 milliards d'euros, voire bien plus selon les simulations. Le gouvernement devra donc resserrer le filtre qui donnera accès à cette couverture élargie aux démissionnaires, explique Bruno Coquet, spécialiste de l'assurance chômage.
C'est jamais arrivé en termes de finances publiques ni d'assurance chômage en particulier. Une nouvelle disposition, ça ne peut pas être open bar. Vous ne pouvez pas dire n'importe qui peut en bénéficier à n'importe quelle condition. Et donc, du coup, l'enjeu est de fixer la liste de ces conditions.
Parmi le million de salariés qui démissionnent chaque année, seuls 70 000 sont indemnisés par l'assurance chômage. Pendant la campagne, Emmanuel Macron avait promis une indemnisation ouverte à tous les démissionnaires, sans condition, une fois tous les 5 ans seulement.
Et si la réforme aboutit, les travailleurs indépendants, eux aussi, auraient le droit aux indemnités chômage. Eux, c'est pour leur emploi qu'ils se battent et pour qu'une promesse soit tenue. Les salariés de l'usine General Electric de Grenoble sont reçus ce matin à Bercy au ministère de l'économie. Un plan social prévoit la suppression de 345 emplois, presque la moitié des effectifs de leur usine. Décision scandaleuse, disent les syndicats, alors même que le groupe américain s'était engagé à embaucher lorsqu'il a racheté l'activité à Alstom il y a 3 ans. Maxime Debs.
C'est avec la gorge nouée que les syndicats iront ce matin à cette réunion. Alfred Pierre-Santelli de la CFDT.
Au bout de 35 ans de service, on me récompense par un joli coup de pied au cul, quoi. Et ça, ça fait mal au cœur parce qu'on est attaché à cette boîte.
Les syndicats qui dénoncent un scandale, General Electric, au moment du rachat de la branche énergie d'Alstom, s'était engagé à créer 1 millier d'emplois, non à en supprimer. Sébastien Jumel, député communiste sensible au dossier, y voit l'expression d'une réalité que l'exécutif ne veut pas regarder en face.
On a là l'illustration que toutes les garanties prise devant le gouvernement sur la fusion Siemens-Alstom, c'est de la poudre de perlimpinpin, parce que les garanties prises pour General Electric ne sont pas tenues.
L'État, de son côté, se défend. Au niveau national, assure-t-on à Bercy, General Electric embauche. Ce dossier, il faut donc l'apprécier dans sa globalité et non à l'échelle d'un seul site. Arguant du fait qu'une entreprise a bien le droit de restructurer, la même source au ministère indique « Peut-être arriverons-nous à éviter l'une ou l'autre suppression de postes, mais cette réunion sera surtout l'occasion de discuter, de comprendre les choses pour faire en sorte qu'elles se passent le mieux possible.
Il est 8h06, des migraines, des insomnies, des douleurs. À quoi sont dus les effets secondaires de la nouvelle formule du Lévothyrox?
Près de 3 millions de Français prennent ce médicament pour la thyroïde. Plus de 15 000 d'entre eux se sont plaints de ces effets secondaires depuis que l'un de ces excipients a été modifié. Après des semaines de débats et de polémiques, l'agence du médicament vient de rendre ses premières conclusions. Bonjour Véronique Julia.
Bonjour.
Les troubles constatés ne seraient pas liés directement à la nouvelle formule, mais au changement de traitement. Qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, ça veut dire que pour l'agence, ce ne sont pas les excipients de la nouvelle formule qui sont en cause. Le fameux passage du lactose au maltose, il ne poserait, dit l'agence, aucun problème, aucune toxicité. Le produit serait conforme et sûr. Les effets rapportés par les patients seraient dus au fait que d'un médicament à un autre, le principe actif peut être dosé un tout petit peu différemment. C'est ça qui provoquerait des déséquilibres, car chez les malades de la thyroïde, la question du dosage est ultra sensible. Une infime variation peut provoquer des vertiges, des bouffées de chaleur, des insomnies. D'après l'agence, ces problèmes doivent donc se régler avec le temps pour chaque patient de retrouver le bon dosage.
Et ce matin, le patron de l'agence du médicament fait aussi son mea culpa.
Oui, dans Libération, Dominique Martin lâche le mot. Ce fut un échec, dit-il, une faillite de notre système d'information. D'après lui, l'agence a quand même fait son travail en diffusant l'information aux professionnels de santé. Mais c'est le dialogue médecin-patient qui n'aurait pas fonctionné. Un échec qui doit servir de leçon pour ne pas le reproduire. Dominique Martin rappelle malgré tout que cet épisode qui a pu être invalidant n'a pas mis de vie en danger. L'agence précise aussi que les 15 000 signalements qui lui sont parvenus ne représentent qu'une part infime des presque 3 millions de patients traités au Lévothyrox.
Merci Véronique. Julia, voilà qui n'a pas fini de faire parler les Parisiens et plus généralement tous ceux qui prennent le volant dans la capitale. La maire de Paris, Anne Hidalgo, accélère encore dans la lutte contre la pollution. Après les voitures diesel interdites d'ici 2024, c'est au tour des essences. Elles n'auront plus le droit de rouler en 2030 dans la capitale. Information de nos confrères de France Info. Un feu d'artifice à 5 heures du matin, ce n'est pas banal. Et dans une centrale nucléaire, ça l'est encore moins. Nouvelle action coup de poing des militants de Greenpeace cette nuit. Ils ont réussi à s'introduire dans le périmètre de la centrale de Cattenom en Moselle avant d'y déclencher un feu d'artifice pour dénoncer les failles dans la sécurité du nucléaire.
Son témoignage était très attendu hier devant les assises de Paris.
Où se poursuit le procès d'Abdelkader Mera, le frère du tueur de Toulouse et de Montauban en 2012 et jugé pour complicité d'assassinat. Hier, la cour entendait l'un des témoins clés ou présenté comme tel en tout cas. Il avait affirmé aux enquêteurs avoir entendu une conversation entre les deux frères en marge d'un match de foot juste avant le premier assassinat, ce qui accréditait évidemment la thèse d'une complicité. Mais hier, ce n'est pas la même version qu'il a livrée à la barre, Charlotte Piret.
Face aux robes noires ou rouges, aux hermines, il entre, jean et blouson noir, crâne dessiné, phrase minimaliste. Très vite, le face-à-face tourne à l'absurde. Vous alliez au match pour quoi faire? Bah pour jouer. Et vous faisiez quoi? J'étais remplaçant. Mais où? Bah sur le banc de touche. Le décalage avec les faits jugés est immense et pourtant, Mohamed, 29 ans, est un témoin clé de l'accusation. Le seul à avoir déclaré aux enquêteurs que les frères Mera se seraient longuement parlé ce 11 mars 2012, quelques heures à peine avant l'assassinat du premier militaire. De là à dire qu'ils ont préparé ensemble et voilà l'aîné complice, mais c'était sans compter sur un témoin amnésique, buté, sous pression, voire les trois à la fois. J'ai jamais dit que c'était Mohamed Mera, je le connaissais pas, assure-t-il en boucle. Mais vous avez déclaré aux enquêteurs avoir appris après que c'était lui ce jour-là, insiste le président. Mais non, comment je l'aurais su, moi? Côté partie civile, on s'agace. Vous avez une amnésie sélective, souligne l'un d'eux. Vous vous moquez du monde, dénonce un autre. Vous avez peur, interroge un troisième avocat. À la barre, le jeune homme n'en démord pas. Un autre témoin de ce match de foot est attendu aujourd'hui à l'audience. L'accusation lui souhaite une mémoire moins sélective.
Inter 8h10 aux États-Unis, Marc. Le grand déballage continue dans l'affaire Weinstein.
Avec une série de nouveaux témoignages contre l'ancien producteur d'Hollywood, elles sont une vingtaine désormais actrices, mannequins, à l'accusé de harcèlement, d'agression ou de viol. Dernière en date, la française Léa Seydoux, qui au passage dénonce l'omerta du monde du cinéma. Règlement de compte également entre les stars d'Hollywood. Le comédien Ben Affleck est accusé d'avoir protégé son ami. Côté politique, les Républicains tirent à boulets rouges sur les démocrates, dont le producteur était un généreux donateur. Cette nuit, on attendait la première réaction de Donald Trump, interrogé sur Fox News. Mais bizarrement ou pas, Grégory Phillips, le président américain est resté silencieux.
Donald Trump, si prompt à tweeter, n'a pas depuis jeudi dernier posté le moindre message sur le scandale Harvey Weinstein. À peine quelques mots samedi à la descente d'un hélicoptère pour dire qu'il connaissait depuis longtemps le producteur et que ses révélations ne le surprenaient pas. Alors que les médias conservateurs se déchaînent sur le camp démocrate qui pendant de longues années a accepté les contributions du nabab d'Hollywood, la Maison-Blanche reste extrêmement discrète sur cette affaire. Seule la conseillère du président, Kellyanne Conway, est sortie du bois hier après-midi pour déplorer, je cite, qu'Hillary Clinton ait gardé l'argent sale que ce sale Harvey lui a apporté pour sa campagne de 2016. L'ancienne candidate à la présidentielle a lâché son compagnon de route mardi soir par le biais d'un communiqué et hier sur le plateau de CNN.
I was just sick.
Ça m'a rendu malade, affirme Hillary Clinton. J'ai été choqué, consterné. C'est vraiment quelque chose d'intolérable. Et en réponse aux critiques du camp républicain, Hillary Clinton annonce qu'elle reversera l'équivalent de ce que Weinstein lui a versé pour sa campagne à des associations de charité. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Comment faire tomber Daesh sans faire payer les victimes? La question est particulièrement sensible en ce moment à Raqqa, en Syrie. Le fief du groupe État islamique est sur le point de tomber, mais 8000 civils sont pris au piège, bloqués entre deux feux. Des négociations ont donc débuté avec les djihadistes pour tenter de les faire sortir avant l'assaut final. Correspondance dans la région Omar Waman.
C'est le sort de milliers de civils, hommes, femmes, enfants qui est en jeu. Mohamed Nezer, un activiste syrien originaire de la région.
Cette dernière phase avant la libération totale de la ville est la plus difficile, car il y a ces milliers de civils pris au piège. Les djihadistes les retiennent en otage et menacent de tout faire sauter si on ne les laisse pas partir avec leurs armes légères.
Et pour épargner des vies humaines, des discussions seraient en cours, ce que confirme le porte-parole de la coalition internationale, le colonel Ryan Dillon, joint à Bagdad.
Oui, le conseil civil de Raqqa mène des discussions avec des chefs de tribus locales pour déterminer le meilleur moyen de permettre aux civils de quitter la ville en toute sécurité.
Et ces discussions auraient abouti à un accord pour permettre aux combattants étrangers et à leurs familles de rejoindre la province voisine de Deir ez-Zor. Mohamed Nezer.
Cet accord prévoit que les combattants syriens soient arrêtés et placés sous la responsabilité des tribus locales. Mais le problème, ce sont les combattants étrangers. Les États-Unis refusent qu'ils soient évacués vers un autre endroit. Les chefs de tribus insistent pour sauver des vies, mais la coalition veut qu'ils soient tous arrêtés et mis hors d'état de nuire.
Et entre 5 et 600 djihadistes, dont une majorité d'étrangers, se trouveraient encore à Raqqa. Beyrouth, Omar Waman, France Inter.
Et surtout, surtout, n'allez pas leur dire qu'ils lancent une télé Mélenchon.
Et pourtant, ce sont bien des proches du leader de la France Insoumise qui ont présenté hier soir leur future chaîne de télévision baptisée Le Média. Elle sera diffusée gratuitement sur Internet à partir du mois de janvier. Indépendante, écologiste et résolument de gauche. Voilà pour la feuille de route. Laurence Perron s'est invitée à la soirée de lancement.
Une salle de spectacle du 11e arrondissement de Paris, tenue par un type de droite. Ça, c'est ce que dit Sophia Chikirou, l'initiatrice du Média, ex-directrice de la communication de la campagne présidentielle de la France insoumise. C'est dire si Le Média n'est pas la Pravda de Jean-Luc Mélenchon. Et là, c'est le psychanalyste Gérard Miller qui défend.
On leur a pas demandé un blanc-seing. Ma mère dit à très juste titre, j'ai envie d'être dans ce média, mais je vais regarder que ce ne soit pas le faux-nez de Mélenchon.
Ma mère, Noël, ma mère, ex-députée mère écolo, qui vient participer au numéro zéro du Média.
Non, je pars pas dans une nouvelle vie parce que mon seul métier, c'est le journalisme. Et donc je rejoins mon ancienne vie.
20h, pas tout à fait pétante, le premier JT du Média. Deux humoristes nous font le coup du Mélenchon dans l'oreillette.
Dans l'oreillette.
Pas de Jean-Luc par ici, pas
bon,
de Jean-Luc par là.
N'est pas là.
Avant d'expliquer que l'histoire commencera véritablement le 15 janvier prochain avec la contribution de sociaux, des entre guillemets actionnaires du Média qui paieront leur droit d'entrée 5 euros par mois, une rédaction de 10 journalistes et des contributions venues d'ailleurs. Arnaud, qui anime avec Valentin une chaîne Stupid Economics sur YouTube, se tâte encore un peu.
C'est vraiment la question de l'éditorial, quoi. Est-ce que c'est le média d'un parti ou pas?
Le Média Mélenchon a été abondamment déminé. Manque du coup ce romantisme qui porte en général les médias qui se veulent différents. Comme le disait l'un des invités, il ne suffit pas de se rebaptiser les Républicains pour être la République. Il ne suffit pas de s'autoproclamer le Média pour l'être vraiment.
Reportage Laurence Perron, c'est l'événement lyrique de cette fin d'année. Ça se passe à l'Opéra Bastille à Paris, qui donne depuis mardi le Don Carlos de Verdi, dans sa version initiale, écrite en français par le compositeur italien. Ajoutez-y le ténor le plus demandé du moment, Jonas Kaufmann, et vous comprendrez l'enthousiasme de Stéphane Capron.
Même s'il avoue préférer la version italienne, Philippe Jordan, le directeur musical de l'Opéra de Paris, qui dirige l'orchestre, est conscient de participer à un événement qui ne se reproduira plus dans sa carrière. Tellement cette œuvre est rare.
Un bon tiers est complètement différent. C'est vraiment une musique beaucoup plus jeune, mais aussi on entend un peu que c'est écrit pour l'Opéra Paris. La musique est beaucoup plus formelle, qui suit beaucoup plus le texte. Alors c'est beaucoup plus théâtral. C'est une version beaucoup plus cohérente, beaucoup plus logique et les proportions et le style pour les cinq actes, ça marche beaucoup mieux.
Il n'y a que des stars sur le plateau. Jonas Kaufmann, Sonia Yoncheva et le baryton français Ludovic Tézier dans le rôle de Rodrigue, seul français de l'équipe et il ne boude pas son plaisir.
C'est une création extraordinaire, ou une recréation. On est en train de se faire des souvenirs pour les années qui viennent, parce que participer à une telle entreprise est rare, d'abord, avec en plus des partenaires de cette qualité-là et qui nous sont si chers, ça n'arrive quasiment jamais.
Côté mise en scène, on a connu le Polonais Warlikowski plus remuant. Sa vision de Don Carlos est très sage, mais ce n'est pas plus mal, car cela permet d'apprécier la qualité de cette distribution prestigieuse.
Don Carlos de Verdi à l'Opéra National de Paris, c'est jusqu'au 11 novembre, mais aussi à la télé-retransmission jeudi prochain sur Arte. Enfin, il y en a qui ne plaisantent pas avec le foot. Le président du Panama, dont l'équipe vient de se qualifier pour la première fois de son histoire pour le Mondial, a décidé que cette journée de jeudi serait un jour de fête nationale. Il sera donc férié dans tout le pays. Écoles, entreprises et administrations fermées aujourd'hui. On se demande ce qu'il fera s'il la gagne, la Coupe du Monde.
Merci Marc Fauvel. 8h17, la météo.